Est-ce que vous croyez à ça, au rendez-vous divin? Plusieurs ont peut-être expérimenté ça. Et c'est toujours une joie d'expérimenter des rendez-vous divins. Ce matin, on aborde le chapitre 9 de Néhémie. Et je peux vous dire qu'en préparant
ce message, en le méditant, j'en ai eu des rendez-vous divins. Quelque chose de merveilleux. D'abord, juste le fait que Néhémie 9 arrive le premier dimanche de janvier dans la nouvelle année. Pour moi, c'est un rendez-vous divin et vous allez le comprendre. Au fur et à mesure que je vais développer le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vous inviterai à prendre vos Bibles parce que je vais développer avec vous tout au long du message. On va regarder les textes bibliques. Je ne le lirai pas d'un trait immédiatement, mais je vais passer au travail, par exemple, au fur et à mesure du message. Dieu nous invite ce matin à trois choses, même quatre choses. D'abord, à nous confesser. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre 9 de Néhémie. À nous recentrer sur Dieu, sur sa parole, à nous reconsacrer et à repartir en neuf. Il y a comme un jeu de mots, c'est le chapitre 9, puis il veut qu'on reparte en neuf. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment ce que Dieu veut. Je vais commencer par un fait vécu qui m'est arrivé il y a 14 ans et que j'ai jamais oublié. Et vous allez voir, jamais je pensais que le Seigneur ferait le lien avec ce fait-là et Néhémie 9. Un jour, un de mes enfants qui venait passer la fin de semaine à la maison n'était pas rentré dans la maison qu'une parole extrêmement blessante est venue me toucher. Ce que je me souviens, c'est la très vive douleur qui a été instantanée, mais à quel point je l'ai ressentie. Mais dans ma tête, mon enfant venait passer la fin de semaine, je ne voulais pas la gâcher. Et j'ai passé par-dessus l'événement pour avoir un bon climat dans cette fin de semaine et j'ai reporté mon intervention à plus tard. J'aimerais prendre un moment ici pour prier avant de continuer dans le chapitre de Néhémie. Seigneur, ce matin, nous ouvrons ta Bible au chapitre 9 de Néhémie. Tu nous parles, Seigneur. Je te demande d'ouvrir notre intelligence et notre cœur pour le rendre enseignable et comprendre le message que tu veux nous adresser ce matin. Seigneur, tu nous as aimés, tu nous aimes et tu ne cesseras jamais de nous aimer. Mais tu es aussi le chemin, la vérité et la voie. Les seules choses qui nous mènent à toi, Seigneur. Alors, permets, Seigneur, que dans ce message, on travaille dans notre vie chrétienne pour continuer notre marche avec toi. On te le demande au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ce qui se passe dans Néhémie 9, Joël l'a mentionné un petit peu il y a deux semaines. Vous vous souvenez que pendant les réjouissances, c'était les festivités. Puis à un moment donné, les Israélites ont entendu le livre de la loi qu'ils n'avaient pas entendu depuis plusieurs siècles. Et malgré toutes ces réjouissances, il y en a beaucoup qui ont pleuré. Et là, tout de suite, on voit que Néhémie, on voit ça dans le verset 9 du chapitre 8, Néhémie, Esdras, le sacrificateur, le scribe, les lévites, ont dit, gardez, soyez dans la joie et non dans la désolation et les larmes. Mais tout de suite, après ces festivités-là, lorsqu'on arrive à la fin du chapitre 8, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que commence le chapitre 9. Le 24e jour du même mois, c'est-à-dire que les festivités dans le chapitre 8 sont arrivées, ont commencé le premier jour du 7e mois, et le 24e jour, tout de suite après que toutes les festivités se sont terminées, qu'est-ce que font les Israélites? Et c'est assez spécial. Le peuple prend conscience du lien qu'il y a entre le mal dans leur propre cœur et leur vie dans de terribles conditions d'esclavage, et ils décident de changer la situation. On voit ça dans les versets 1 et 2 qu'on va regarder ensemble. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand ils ont entendu le livre de la loi, ils ont compris tout le mal qu'ils avaient fait, et il y avait tellement de tristesse en eux que tout de suite après les festivités, ils ont senti le besoin de venir devant Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Le verset 3 nous dit, « Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. » Ce que j'ai appris, c'est que les quarts de journée pour les Israélites, c'était des périodes d'environ 3 heures. Et là, on constate qu'il y a 3 heures de confession, 3 heures de louange. C'est divisé en deux groupes. On le voit dans les versets 4 et 5 du chapitre 9. Josué, Bani et Kadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Hashabnia, Sherebia, Odija, Shebania et Petachja dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Là, si vous remarquez, dès le départ au chapitre 3, ils disent, lorsqu'ils furent placés. Alors, les Israélites ne se sont pas présentés devant Dieu en désordre. Ils se sont présentés en ordre, parce qu'il y avait quelque chose dans leur cœur qu'ils voulaient confesser à Dieu. Et c'est là qu'on va regarder, le reste du texte se divise en trois sections. Les versets 5 à 31 que j'appellerai ou j'intitulerai le passé. La deuxième section, le présent, les versets 32 à 37. Et le dernier verset, le verset 38 pour l'avenir. Alors, on va regarder ça dans 3 étapes. Alors, dans l'étape du passé, on voit les versets 5 à 31. Dans un premier temps, les versets 6 à 15 louent Dieu pour 6 raisons. La première raison, parce qu'il est le Créateur. On le voit lorsqu'on lit, « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux. » Les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Alors, il loue Dieu parce qu'il est le Créateur. Puis, pensez-y 2 minutes, là. C'est pas un bel endroit pour commencer à louer Dieu. Commencer par la vie qu'il nous donne. Des fois, je me demande si on n'a pas oublié ça. Que Dieu nous donne la vie. Vous savez, il n'y a personne de nous qui s'est créé. Et il n'y a personne de nous qui a façonné notre corps qui est si complexe. On a juste à penser au processus, ou à tous les processus, là, vous êtes assis, tout ce qui se passe actuellement dans votre corps. Vous ne pensez pas à respirer, à faire aller votre diaphragme, ça marche tout seul. Mais ça, c'est votre corps, mais c'est ça que Dieu a créé. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Et on peut le remercier à chaque jour pour cela. La deuxième raison pour laquelle il loue Dieu, on le voit au verset 7, « C'est toi, éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Canaéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Guirgasiens, et tu as tenu ta parole, car tu es juste. » Ici, on voit que Dieu garde ses promesses. Le Nouveau Testament nous enseigne très clairement, qu'il n'y a personne qui cherche Dieu si ce n'est Dieu lui-même qui nous cherche en premier. C'est Dieu qui appelle, qui nous choisit et qui nous attire à lui. Est-ce qu'on réalise qu'aucun de nous serait ici ce matin si ce n'était pas de l'appel miséricordieux et souverain de Dieu? Amen. La troisième raison, parce qu'il a délivré son peuple de l'oppression. On lit ça des versets 9 à 12. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte. Tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté il avait traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui éclaira dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Moi, la question qui m'est venue immédiatement, c'est est-ce que Dieu ne nous a pas délivrés du monde, mis à part, en nous faisant le privilège de devenir son enfant et son co-héritier? C'est exactement ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël lorsqu'il l'a tiré des mains de Pharaon. La quatrième raison pour laquelle il loue Dieu, c'est parce qu'il a révélé sa loi et sa sagesse. Et on retrouve ça dans les versets 13 et 14. Tu descendis sur la montagne du Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Encore une fois, Dieu nous a-t-il pas laissé sa Bible pour nous enseigner et nous guider chaque jour dans notre vie? Est-ce que nous prenons le temps de le rencontrer? La cinquième raison, parce qu'il a pourvu aux nécessités de la vie. On retrouve ça au verset 15. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. » Dieu enseigne son peuple à vivre. Est-ce que ce n'est pas la situation dans laquelle on vit aujourd'hui? Dieu ne nous enseigne pas à vivre. Dieu nous a donné ce livre merveilleux qu'est la Bible. Ce qu'il veut nous enseigner à travers ses Écritures, ses Saintes Écritures, c'est la façon de vivre, la santé spirituelle, le salut, la délivrance et la force intérieure qui permet de résister aux tentations de ce monde qui bouge tellement alentour de nous. Si on néglige de lire la parole de Dieu, c'est de la pure folie. L'autre chose qu'on remarque dans le texte que je viens de lire, le verset 15, c'est que Dieu répond aux besoins. Il a donné le pain, l'eau pour subvenir à leurs besoins physiques, mais aussi pour combler leurs besoins spirituels. Et le Nouveau Testament ne trace-t-il pas ces images de Christ? Il est le pain de vie, il est l'eau vive. La sixième raison pour laquelle il loue Dieu, dans le verset 16. Et là, ça va se subdiviser en quatre parties, mais ce n'est pas tellement ça, mais c'est pour vous montrer, je ne veux pas insister là-dessus, ce n'est pas le point ce matin, mais vous allez voir à quel point Dieu les aimait, comment Dieu. Le verset 16 dit, « Nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. » Puis là, le reste du texte, des versets 17 à 31, alterne entre la confession, la louange. Un groupe crie à haute voix, confesse leur péché, l'autre groupe répond en louant Dieu. La première partie de cette démarche de confession-louange, on la retrouve au verset 17 et 18. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonnais pas, même quand ils se firent un veau en fonte et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Ce qu'on remarque ici, c'est que la direction de la rébellion, c'est une révolte contre Dieu, puis c'est un retour à ce qu'on faisait ou ce qu'on pouvait faire avant lorsqu'on vivait dans le péché. Et c'est exactement ce qu'Israël a fait. Ils ont voulu retourner en Égypte, ils ont voulu être assujettis à Pharaon, à l'esclavage quotidien en faisant de la brique sans paille. Mais ils ont tout oublié de l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils ont désiré les plaisirs sensuels de l'Égypte. La rébellion, la révolte contre Dieu, ça dupe à ce point. La deuxième partie, qui vient de la sixième raison de la louange, où on parle de la fidélité de Dieu et de l'infidélité des Israélites, c'est dans la marche dans le désert. On retrouve ça des versets 19 à 21. Et je vous les lis. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Je ne sais pas si vous voyez la bonté de Dieu à travers des gens qui pouvaient le renier presque quotidiennement. Seigneur, on manque d'eau. Seigneur, on veut de la viande. Seigneur, on veut ci. Seigneur, on veut ça. Et parfois en disant des paroles injurieuses contre Dieu. La troisième partie, c'est la conquête de Canaan et des terres promises. On retrouve ça des versets 9-22 à 9-25. Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageras entre eux les contrées. Ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesdon, le pays d'Og, roi de Bassan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortes, fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est assez étonnant comme histoire. En tout cas, une réflexion qui m'est vue, ils viennent de passer 40 ans dans le désert. Juste avant, ils ont vécu 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils n'ont aucun entraînement militaire. Ce n'est pas des gens qui, normalement, sont agressifs là, vis-à-vis d'autres personnes. Ils sont confrontés à des armées païennes très bien entraînées et surtout habituées au combat. Et les Israélites les ont vaincus. Et ils ont conquis le territoire, tel qu'on le voit dans le livre de Josué. Après les conquêtes, ils ont reconnu que Dieu avait tout accompli et ils l'ont loué pour sa très grande bonté. Il dit, ils vécurent dans les délices par ta très grande bonté. Je ne sais pas pour vous autres, mais avez-vous déjà remercié Dieu pour les victoires que vous avez déjà eues? Dans votre vie, pour tout ce que nous ne pensions pas recevoir et que nous avons reçu, nous sommes-nous déjà arrêtés pour nous délecter de la bonté de Dieu? Est-ce que nous reconnaissons que Dieu est avec nous et que sa main nous accompagne dans ce que nous faisons? Et si oui, est-ce qu'on lui donne toute la gloire? La quatrième partie, c'est toute l'époque des juges et de la royauté. On retrouve ça au verset 9. La royauté, là je parle du juge Othniel, qui a été le premier juge, jusqu'à la déportation assyrienne des dix tribus du Nord en 722 avant Jésus-Christ et de l'exil babylonienne de Juda en 605 avant Jésus-Christ. On retrouve ça des versets 26 à 28. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta très grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Ici, on voit qu'Israël est sous l'emprise des mains ennemies étrangères pour des périodes qu'on lit dans le livre des Juges qui variaient de 20 à 40 ans. Mais à chaque fois que le peuple criait à Dieu, Dieu les délivrait par l'envoi d'un juge. On voit que ce texte-là couvre l'ensemble de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les assujettissements d'Israël, d'abord aux Syriens, ensuite aux Assyriens et finalement aux Babyloniens. Dieu a permis aux ennemis d'envahir le peuple d'Israël pour montrer à son peuple ce qui était arrivé, ce qu'ils ont fait, et tout les sensibiliser parce qu'ils ne semblaient pas insensibles, ils le faisaient, puis ils continuaient à le faire. Mais Dieu voulait les sensibiliser au mal qu'ils ont fait. Le texte continue, et qu'est-ce qu'on voit dans les versets 29 à 31? Ces versets-là nous décrivent la patience de Dieu et sa façon de travailler. Et c'est assez intéressant de lire ça. Tu les conjuras de revenir à toi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent leurs coups. Ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors, tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais, dans ta très grande miséricorde, tu ne les anéantis pas. Tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu n'agit pas de la même façon pour nous, malgré nos infidélités que nous avons, que nous faisons, et même celles qu'on ne réalise pas qu'on fait. Je reviens à mon histoire du début. Si je vous posais la question, selon vous, est-ce que j'ai bien agi envers mon enfant en taisant l'événement pour passer une fin de semaine dans un bon climat? La réponse, c'est non. Ce que j'aurais dû faire normalement, c'est adresser le problème, avec douceur, mais adresser le problème, pour faire réaliser à mon enfant le mal qu'il avait fait et l'amener au pardon. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Comme les Israélites, d'ailleurs. Quand mon enfant est reparti, la vive douleur que j'avais ressentie est revenue avec une telle intensité que je me suis mis à pleurer. Tellement j'étais blessé et j'avais mal. Mais savez-vous ce qui est arrivé à ce moment-là, ce que le Seigneur a fait dans ma vie à moi? Et jamais je l'oublierai. C'est ça que je vous dis. Ça fait 14 ans, je ne l'ai jamais oublié. Puis la pensée qui m'est venue, c'est celle-ci. « Seigneur, lorsque je pêche, est-ce que je te fais autant mal? Est-ce que tu ressens ce que je ressens ou tu ressens pire encore? Est-ce que je te fais autant de peine quand tu me vois agir comme ça? » Vous devinez la réponse? j'ai eu tout de suite la conviction intime que Dieu, qui est trois fois saint, ressentait encore bien plus mes péchés ou mon péché. Et sachant à quel point Dieu a en horreur le péché, j'ai compris tout de suite le poids de ma faute contre Dieu. Qu'est-ce que ça a fait dans ma vie, ça? Non seulement je ne voulais plus offenser Dieu, mais réalisant toute la peine et la souffrance que ma désobéissance pouvait lui occasionner, j'ai réalisé du même coup tout ce que Dieu m'a pardonné. Et que malgré qu'on pêche, on continue, sans nécessairement vouloir, mais on est faible, c'est pas qu'on ne veut pas, mais on tombe pareil. Mais Dieu reste fidèle à nous. Qu'est-ce que font les Israélites ce matin dans le chapitre 9 qu'on lit? Ils réalisent le mal qu'ils ont fait. Ils viennent devant Dieu et se confessent. Ils reconnaissent la fidélité, la justice et les nombreux bienfaits qu'on a lus tout à l'heure que Dieu leur a accordés. Et ils reconnaissent qu'ils sont esclaves sur leur propre terre que Dieu leur a donnée, mais à cause de leur péché. Je vous ai dit que le texte se divisait en trois. Le passé, on vient de terminer le passé. La deuxième, c'est le présent. Le peuple confesse ses péchés. C'est le verset 32, 33 et 34 qui nous ramène à ces points-là, même jusqu'à 37, que je vais vous lire. Et je reviendrai sur le texte. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi, et ils n'ont pas été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi. Et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. La fin de mon histoire, c'est que j'ai pris conscience de mes propres fautes et j'ai pris l'engagement d'obéir à Dieu. Et c'est exactement ici, ce matin, qu'on se situe. Et la seule façon de guérir ou de se rétablir, c'est de faire ce que les Israélites ont fait. Confesser nos manquements à Dieu et le louer pour sa compatissante miséricorde. Et une façon de le faire, c'est dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai fait cela. Je suis tombé, je me suis détourné, j'ai oublié ta parole. J'ai marché selon ma propre pensée, mes propres voies. » Dieu entend toujours cela. Il pardonne et il restaure. C'est dans sa divine nature, dans sa gracieuse nature, et c'est exactement ce qu'il veut. Qu'est-ce que font les Israélites? Face à tout ça, verset 38 termine, et c'est le troisième pas, c'est-à-dire la troisième étape vers l'avenir. Le peuple s'engage envers Dieu et repart en neuf. Pour tout cela, ce qui vient de tout être dit dans le chapitre 9, nous contractâmes une alliance que nous-mêmes par écrit. Nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Et vous verrez dans l'étude du chapitre 10, ça continue. Est-ce que ce n'est pas un besoin qu'on a, genre une fois par année, en tout cas la période est propice, pour mettre des nouvelles résolutions, soit par écrit ou qu'on veut, on veut réaliser, à l'aube d'une nouvelle année? Ici, ce matin, on est confronté aux deux mêmes thèmes. La rébellion et l'indifférence de l'homme avec la gracieuse et aimante patience de Dieu qui nous pousse à agir. Dieu attend pour nous pardonner que nous fassions face au péché dans nos vies. Ce que je vous propose ce matin, pour terminer, c'est, prenons chacun, on va prendre à peu près 5 minutes en restant assis à nos places, et prenons l'opportunité, dans le silence, de lui confesser directement nos péchés et de prier pour son pardon. Alors, je vous invite à prendre ce moment de 5 minutes. Au cours de ce moment, je vais vous parler occasionnellement, je vais vous donner des sujets de réflexion. On peut se poser la question s'il ne nous arrive pas parfois de nous tourner le dos à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on ne rédit pas aussi le coup, parfois par orgueil, contre la volonté de Dieu pour plutôt faire la nôtre? Nous rebellons-nous contre Dieu? Nos passions, peu importe laquelle, ne deviennent-elles pas notre Dieu, notre veau d'or? Est-ce que nous pouvons croire que Dieu nous a abandonnés en nous laissant totalement nous-mêmes, comme s'il nous disait, « Lui qui s'arrange, car moi, Dieu, je suis fatigué, j'ai plus de patience, je m'occupe plus de lui ou d'elle. » Ne vivons-nous pas dans un pays d'abondance, de paix, de confort, en oubliant très souvent notre prochain immédiat et lointain? Dieu n'est-il pas juste et fidèle avec chacun de nous, malgré que nous péchions? Est-ce que moi et ma maison, nous honorons le Seigneur par notre vie, par nos prières, par nos dons, par nos offrandes? Ne possédons-nous pas la vie éternelle en Christ? Confesser, c'est s'humilier et reconnaître l'horreur de nos péchés devant notre Dieu très saint, trois fois saint. C'est prendre une décision pour Dieu et repartir en neuf. Confesser, c'est aussi reconnecter avec notre Dieu d'un cœur sincère et laisser agir le Saint-Esprit dans notre vie qui opère en chacun de nous pour nous transformer à l'image de Jésus, notre Seigneur. Confesser, c'est finalement revenir au pied de la croix de Jésus, le Christ, et lui renouveler solennellement notre confiance et saisir la puissance de sa croix. Pensons à tout cela et s'il y a d'autres choses qui vous viennent, demandez pardon à Dieu, confessez-le devant lui et demandez-lui de vous pardonner. Il est là, il attend, il est bienveillant, il est miséricordieux et il est prêt à le faire. Et je pense que c'est un beau geste pour commencer l'année 2008 avec le Seigneur. Ce que le chapitre de Néhémie m'a appris et que je remercie le Seigneur, c'est de montrer que le Seigneur veut toujours notre bien. On le voit dans Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur veut nous bénir. Et il veut, en nous bénissant, qu'on bénisse les autres. Alors, je terminerai, si vous voulez, pas par un chant, mais j'aimerais qu'on se reconsacre, qu'on se recentre sur Dieu, sur Jésus-Christ. Et je vous inviterai à vous lever et à prendre votre Bible, le livre justement où Dieu nous parle et où il s'adresse à chacun de nous. Et j'aimerais qu'on lise ensemble, le psaume 103, comme louange à notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Ouais, je pense que c'est mieux d'allumer les lumières pour permettre aux gens de lire. Alors, allons-y ensemble tranquillement. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui la craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle,
elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, que c'est, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Alors, en 2008, au début de cette année, mon souhait pour chacun de vous, c'est soyez bénis par l'Éternel. Amen.